Nous allons accueillir le second cofondateur de cette fondation, professeur Dubois. Merci de nous rejoindre. Vous êtes directeur scientifique de la Fondation pour la recherche Alzheimer et membre de l'Académie de médecine. Et c'est toujours un plaisir de vous écouter parce qu'on va en savoir plus sur ce que les scientifiques ont dans leur carton. Que dire aujourd'hui de la recherche contre cette maladie ?
Merci, chère madame, chère Agnès. Oui, on est là aussi pour parler de la recherche. De la recherche, et je voudrais vous parlez de la recherche que j'appelle appliquée, c'est-à-dire d'une recherche qui est appliquée chez le patient et qui va être directement perceptible chez le patient et pour vous aussi, pour l'entourage. Voilà, donc j'ai décliné cette recherche appliquée en différents spots que je vais énumérer avec vous, je crois qu'il y en a 7 ou 6 ou 7. Le premier, si vous voulez, je dois cette diapositive à un ami qui travaille avec nous, qui s'appelle le docteur Nicolas Villain, et qui m'a donné une ou deux slides au début, et qui rappelle, si vous voulez, que pour ceux qui en 69 écoutaient les Beatles, il y a une fameuse chanson qui s'appelait A Long and Winding Road. Vous la connaissez, Agnès ? Hein ? Vous la connaissez ? Voilà, on la connaît tous. Et c'est une chanson qui raconte que le chemin est long pour aller jusqu'à, je pense, jusqu'à l'aimer, et pour nous, pour aller jusqu'à la solution et pour aller jusqu'au traitement. Et c'est une route qui est parsemée d'embûches, mais qui a commencé, vous allez voir, qui a commencé il y a maintenant quelques années, qui a commencé en 2000, puisqu'en 2000 est apparu un résultat absolument spectaculaire, c'est qu'on guérissait, finalement, on guérissait, et on faisait disparaître les lésions de la maladie d'Alzheimer chez des souris transgéniques. Et à partir de ce moment-là, on a cru, vous vous rappelez, les plus anciens dans la salle, qui se rappelaient de l'enthousiasme que nous avions à ce moment-là, car on était persuadés, convaincus qu'on avait trouvé le traitement de la maladie d'Alzheimer. On a déchanté, puisqu'il y a eu ces fameuses méningoencéphalites qui ont obligé à revoir la copie, et d'une immunothérapie dite active, dans laquelle on injectait directement l'antigène, et bien là, on est passé à une immunothérapie passive, c'est-à-dire qu'on a injecté des anticorps qui ont été élaborés chez des animaux. Et depuis 2005, si vous voulez, vous avez plusieurs essais d'immunothérapie passive et qui ont été des échecs. Qui ont été des échecs pour un certain nombre de raisons. Et une des raisons pour lesquelles c'était des échecs, c'était probablement parce que les populations sur lesquelles ces médicaments avaient été essayés n'étaient pas satisfaisantes. Et donc ces échecs successifs nous ont permis de mieux définir la population cible. Eh bien, cette population cible, on sait maintenant que ça doit être des patients au début, et ce sont des patients dont le diagnostic doit être fait sur la base de ces fameux biomarqueurs dont on va parler après. Alors après, donc, cette série d'échecs est apparu ce nouvel espoir. Alors les amateurs de Star Wars, moi je ne suis pas un grand connaisseur de Star Wars, mais ceux qui connaissent Star Wars savent qu'il y a A New Hope, et c'est dans les dernières, je crois que c'est dans les dernières séries de Star Wars, il y a le New Hope. Et bien effectivement, nous aussi, nous avons notre New Hope, notre nouvel espoir, avec ce fameux médicament, l'aducanumab, dont on va parler. On va en parler parce que je vous en ai parlé l'année dernière, et depuis l'année dernière, il s'est passé un certain nombre de choses qui nous conduisent à reconsidérer l'intérêt de ce médicament. Mais quoi qu'il en soit, il y a un certain nombre de faits qui sont des faits incontournables et qui sont des faits qui ont un poids considérable dans cette route dont je vous ai parlé au début, cette longue route qui nous conduit vers le traitement. D'abord, en 2016, il y a eu ce résultat d'une étude préliminaire. Ce sont des études préliminaires et qui ont été extrêmement excitantes parce qu'elles montraient deux choses. Elles montraient premièrement que le médicament nettoyé, regardez, à droite par rapport à gauche, c'est facile, on n'a pas besoin d'être médecin pour comprendre, quand c'est rouge, c'est pas bon. Quand c'est bleu, c'est bon. Et bien, vous voyez que les patients, après un an de traitement, passaient de l'état « c'est rouge » à gauche à « c'est bon » à droite, sauf celui du haut, vous voyez, qui restait pas bon parce qu'il était sous placebo. Alors, vous voyez, donc là, on avait un médicament qui nettoyait les lésions de la maladie. Et qui plus est, il améliorait les scores parce que, je vous avais dit l'année dernière, on n'est pas là pour soigner des lésions, on est là pour soigner des symptômes. Et non seulement on nettoie les lésions, mais on nettoyait les symptômes, puisque, vous voyez, En haut, la baisse progressive en fonction de la dose et de la durée, la baisse progressive de l'effet sur les symptômes, et pour le MMSE, l'amélioration progressive de l'effet sur les symptômes. Et puis, la saga de l'aducanumab, finalement, une longue histoire que je vous résume, avec ce premier essai dont je viens de vous parler, positif, phase 1B positive, et puis une analyse intermédiaire qui est faite par le laboratoire, négative, on arrête, et puis, troisième épisode 3 de mon Star Wars, analyse ultérieure, ils continuent à suivre les patients malgré tout, ils font des analyses ultérieures, il y avait deux études, l'une positive, l'une négative, vous voyez, c'est pas simple. Là-dessus, la FDA réunit un comité scientifique pour leur dire, écoutez, voilà, on a des résultats intermédiaires, des uns sont positifs, l'autre sont négatifs, qu'est-ce que vous en pensez? Le comité scientifique dit, non, c'est pas bon, on prend pas. Très bien. Là-dessus, la FDA se réunit 6 mois après, pression ou pas, on ne sait pas, résultat, ils disent, on prend. Hop, le médicament est autorisé. Et puis finalement, il n'est pas remboursé aux États-Unis, donc les ventes chutent. Et en Europe, qu'est-ce qui se passe? L'Europe dit non, nous, on ne marche pas. Vous avez une étude positive, l'autre qui est négative. Vous n'avez pas les deux études positives qui sont nécessaires pour obtenir l'autorisation. L'Europe est clean. Elle dit non, on ne prend pas. Donc ce qui fait que ce médicament, on ne l'aura pas en France. On ne l'aura pas, sauf si la nouvelle étude que le laboratoire a décidé d'entreprendre et dont on n'aura pas les résultats avant 2026, cette nouvelle étude devient positive, car à ce moment-là, il y aura deux études positives. Vous voyez, c'est compliqué. Donc là, du canuma, pour l'instant, on oublie. Mais, deuxième spot, si vous voulez, de ma démonstration aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que même si on n'a pas ce médicament, même s'il n'a pas démontré formellement qu'il était efficace dans les deux études dans lesquelles il a été essayé, tous ces médicaments, l'aducanumab, et y compris ceux qui sont actuellement en développement, que nous avons à la Salpêtrière et que nous étudions, je pense par exemple au donanemab ou au lecanemab, tous ces médicaments ont un effet incroyable sur les lésions elles-mêmes. Car vous voyez ici, par rapport à 100, qui est généralement le taux de base au départ, en fonction du temps d'essai du médicament, quand on fait des essais thérapeutiques, c'est sur 1 an et demi en moyenne. Eh bien, à la fin de l'étude, les lésions amyloïdes ont diminué de 80 à 100% dans le cerveau des patients. Donc, ce sont des médicaments qui, en ce moment, les médicaments que nous avons à notre disposition, marchent tous de façon incroyable sur les lésions de la maladie. Donc, c'est ça la bonne nouvelle. Il faut s'accrocher à cette bonne nouvelle. Je vais vous expliquer pourquoi. Troisième message que je vous avais déjà dit l'année dernière, mais je vous le redis, c'est important. Grâce aux biomarqueurs que nous avons et que nous utilisons, et on travaille beaucoup à la Salpêtrière avec Foudil Lamary, le docteur Lamary, le docteur Villain qui est ici, et d'autres, on travaille sur les biomarqueurs, et je vous développerai ça de façon plus précise, avec des machines nouvelles que nous avons achetées, notamment grâce à l'AFRA, et qui nous permettent maintenant d'avoir des dosages extrêmement sensibles de ces biomarqueurs, on en reparlera. Et on a observé, c'est pas nous qui avons fait cette étude, mais nous avons fait une étude similaire, on a observé que les biomarqueurs, c'est-à-dire cette signature biologique de la maladie, étaient déjà modifiés 15 ans avant le début des symptômes. Et vous voyez, il y a déjà 10-15 ans avant, une augmentation des dépôts d'abêta, l'augmentation de la concentration de la protéine tau et la diminution des volumes de l'hippocampe ou du métabolisme du glucose. Donc, troisième notion, les lésions sont précoces dans la maladie. Alors, je vous demande de garder en mémoire le point numéro 2, l'effet sur les lésions. On a des médicaments qui fonctionnent sur les lésions, on sait maintenant que les lésions surviennent précocement avant même les symptômes. Quatrième donnée qui est essentielle, c'est qu'il semble que la prévention soit possible. Et il y a des travaux récents qui montrent que on va pouvoir probablement contrôler un certain nombre de facteurs, il y a un certain nombre de facteurs de risque que l'on peut contrôler. Alors je vous les énumère, il y a la stimulation cognitive dès l'enfance, l'éducation, ce qu'on appelle l'éducation, c'est-à-dire les connaissances théoriques qu'on a chez les enfants. Il y a des contrôles de facteurs de risque vasculaires, il y a l'activité physique, il y a un certain nombre de points dont on a montré qu'ils avaient un impact sur le développement des démences en général et peut-être de la maladie d'Alzheimer en particulier. Mais surtout, il y a une étude qui a été faite en Finlande qui montre qu'après 2 ans d'une intervention dite multidomaine qui associe une alimentation particulière, plutôt du type méditerranéen, la pratique d'exercices physiques réguliers, la stimulation cognitive et les contrôles de risque vasculaire, a un effet significatif chez des gens âgés qui ont déjà des petits troubles cognitifs et ça ralentit le déclin cognitif. C'est l'étude Finger qui est une étude intéressante. Donc le message, c'est qu'on peut agir et il faut agir. Alors, comment ? Eh bien, il y a trois choses que nous faisons, nous. La première chose, c'est que nous travaillons sur le repérage précoce des sujets à risque. Parce que nous nous inscrivons dans l'idée que ces fameux médicaments qui ralentissent les lésions sont d'autant plus efficaces qu'ils seront prescrits tôt. Et c'est ça le message. C'est se mobiliser pour un diagnostic, un repérage précoce de ces patients. Alors, qui ont déjà des symptômes, peut-être même dans l'avenir, et je vais vous expliquer comment, on pourra peut-être les repérer avant même qu'ils aient des symptômes. Quoi qu'il en soit...
Peut-être déjà préciser que la partie génétique de cette maladie reste vraiment le tout petit pourcentage, parce que beaucoup de personnes pensent que peut-être elles ont des prédispositions, que c'est les parents, etc. Absolument. Et là-dessus, on est vraiment au clair aujourd'hui.
On est vraiment au clair, moins de 1%, et toutes les formes génétiques sont connues actuellement en France, parce qu'elles surviennent très très tôt, avant 55 ans. Donc on les connaît, les formes génétiques. Donc un outil de repérage avec ce qu'on appelle un outil digital, c'est une application numérisée, digitale, qui nous permet, c'est des petits tests qu'on fait sur une tablette ou sur un ordinateur, et qui permet de repérer des changements précoces, parce qu'on a mis au point des tests de mémoire, je vais vous en parler. Donc on a travaillé là-dessus, premier repérage précoce, et voilà les résultats d'un travail que nous avons fait avec mon équipe, notamment le docteur Villain, le docteur Eppelbaum et le docteur Stéphanie Bombois qui est venu, je crois, nous parler l'année dernière aussi. Eh bien, nous avons pris, vous voyez, 129 sujets. 129 sujets qui avaient la maladie pour certains, pour 64 qui avaient la maladie d'Alzheimer, pour 65 qui étaient cognitivement normaux. Et on leur a fait passer à chacun les deux épreuves, c'est-à-dire l'épreuve de santé cerveau qu'on a développée, cet outil digital qu'on a développé, qui est une petite batterie que l'on fait comme ça sur iPhone ou sur iPad, et qui dure une quinzaine de minutes. Et d'un autre côté, ils avaient un bilan complet fait dans notre institut, lequel on faisait passer une batterie complète. Eh bien, on a vu deux choses. D'abord, une corrélation absolument extraordinaire dans les tests, vous voyez, avec des corrélats de 0,84, avec un R à 0,84, et puis surtout une concordance diagnostique extrêmement forte, ce qui fait qu'on a aujourd'hui à notre disposition un outil qui permet de repérer la maladie d'Alzheimer, comme ça, très facilement, avec une application digitale. Donc on va le développer avec l'ARS dans la région Île-de-France pour petit à petit faciliter un repérage de ces sujets qui ont une plainte, comme vous et moi, on a tous un peu une inquiétude. Eh bien, on utilise la petite application, on va voir son médecin traitant. Le médecin traitant, à ce moment-là, prend la décision. Il ne sait rien du tout, c'est banal, c'est lié à l'âge, ou c'est un peu plus sérieux, et vous allez à la consultation de mémoire de proximité. Deuxième action sur laquelle on travaille, c'est le repérage de ces biomarqueurs dont je vous ai expliqué que c'était la signature biologique de la maladie, non plus dans le liquide céphalo-rachidien, parce que c'est quand même assez agressif de faire une ponction lombaire, ça, c'est coûteux. Il faut attendre un peu de temps pour avoir le résultat. Là, on veut le faire, nous, tout simplement dans le sang. Dans le sang, et avec le docteur Lamarie, eh bien, on a, et grâce à l'achat de nouvelles machines que nous avons pu récupérer, notamment une Simoa, eh bien, nous avons maintenant, et puis il y a aussi le docteur Villain qui travaille sur le spectre de masse, on développe des nouveaux biomarqueurs plasmatiques sanguins dont on est en train de montrer qu'ils sont extrêmement performants. Alors, à l'échelon d'une population, je ne dis pas au niveau individuel, mais vous voyez, là, nous avons deux populations, une population à gauche de patients atteints de maladie d'Alzheimer et à droite, une population de patients qui n'ont pas la maladie d'Alzheimer, ils ont des troubles cognitifs, et voyez qu'on arrive avec un seuil de phosphoto, qui est une des protéines sanguines, on arrive à séparer les deux populations. Alors, il y avait 20 patients dans un groupe et 20 patients dans l'autre groupe. Donc, c'est des petits échantillons. Mais ça veut dire que, apparemment, on arrive dans des conditions particulièrement bien faites de la recherche clinique. On arrive maintenant à séparer assez bien, simplement avec un prélèvement sanguin. Alors, je ne dis pas qu'il va falloir sortir et puis se faire une prise de sang, on vous dira maladie d'Alzheimer. Ce n'est pas ça. C'est que là, on est en train de développer des stratégies qui sont un peu, c'est un peu de la science-fiction, mais qui, dans l'avenir, seront performantes. Je vous fais le pari que dans 5 ans, on saura repérer des gens qui sont à risque de développer la maladie, à très haut risque de développer la maladie, grâce à ces études qu'on appelle de pré-screening, de repérage, avec les tests dont je vous ai parlé, avec ces prélèvements sanguins. On les adressera dans des structures comme celle qu'on est en train de monter à la Salpêtrière, qui est un centre de prévention du déclin cognitif, où on repérera la qualité du risque réel. Parce qu'à 60% de risque, on ne va pas vous traiter. Mais à 95% de risque de développer la maladie dans les 6 mois ou dans l'année, eh bien là, on pourra utiliser ces médicaments dont je suis persuadé qu'on va pouvoir en bénéficier dans les mois ou les années qui viennent et qui ralentissent les lésions. Voilà. Donc, c'est le projet que je suis en train de monter à la Salpêtrière, la construction d'un bâtiment qui s'appelle le bâtiment CERMAD, Centre d'excellence et de recherche sur les maladies d'Alzheimer et dégénérative. L'idée est de constituer des cohortes informatives, d'identifier les facteurs de risque et les biomarqueurs les plus pertinents, établir des algorithmes prédictifs, calculer le risque pour chaque individu, pour faire bénéficier de stratégies thérapeutiques préventives et aussi de ces fameuses interventions qui peuvent lutter contre les facteurs de risque. Et vous avez là le projet qui m'anime, c'est, vous voyez, vous avez donc des sujets, comme vous et moi, qui allons venir pour aller au CERMAD, et on va pouvoir comme ça suivre ces sujets à risque, on va pouvoir établir des cohortes, à partir de ces cohortes, on va établir des bases de données, à partir desquelles on va extraire des algorithmes de prédiction. Et après, ça c'est la recherche, après on va passer au centre de prévention et du déclin cognitif. À partir de cet algorithme de prédiction, on pourra évaluer le risque personnalisé par individu. À partir de là, on pourra faire des interventions ciblées et puis étudier l'effet sur des facteurs de risque modifiables et la thérapeutique. Voilà le projet pour les quelques années à venir. C'est le projet du CERMAD et c'est le projet de la recherche clinique. Voyez, les choses avancent bien. Pour résumer, je pense qu'on a des médicaments qui ont un potentiel thérapeutique indiscutable, sauf qu'il faut maintenant bien les utiliser, non pas chez les patients déjà très avancés de la maladie, mais des patients très au début de la maladie. Et ces patients au début de la maladie, il faut les repérer. Et nous avons développé, et nous développons avec mon équipe, les outils qui nous permettent de les repérer, à la fois des outils cognitifs, ces petites applications digitales dont je vais parler, et aussi des prélèvements sanguins qui vont nous permettre de screener au mieux ces patients qu'on va adresser dans les centres de prévention. Et c'est tout un projet qui nous anime avec Nicolas Villain pour les années à venir. Je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup.